Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. C'est donc parti pour le Brexit. La première ministre britannique Theresa May veut lancer les négociations avant mars prochain et le ton paraît sans concession, faisant craindre le pire concernant les conséquences économiques d'un divorce douloureux. Dans le secteur immobilier, après les fortes turbulences de l'été, les prix du luxe et des biens plus classiques se sont stabilisés. Londres reste toujours l'une des villes les plus chères du monde. C'est le reportage de Marie Billon.
South Bank, un quartier tout neuf. Il y a quelques années, il n'aurait pas attiré grand monde et certainement pas de grandes fortunes. Nous sommes sur la rive sud de la Tamise, longtemps boudée par les plus aisés. Aujourd'hui, ce quartier central a bien changé. Entre des petites maisons peu reluisantes se dressent des immeubles de verre, comme cette tour de 41 étages et 197 appartements de grand luxe. Identify yourself. Car A. Garrington Property est une agence qui s'occupe des biens de grand calibre. Nick Dawson en est un des consultants.
Nous sommes au 24e étage, dans un grand 3 pièces, avec une vue sur la Tamise, la Grande Roue de Londres, le London Eye, le Parlement de Westminster et une vue panoramique sur le centre de la capitale. Le prix est de 2 775 000 livres.
Plus de 3 millions d'euros donc, sachant que la prestation comprend un demi-million pour les services d'un décorateur d'intérieur qui est déjà passé par là, pour les riches clients vivant à l'étranger qui voudraient avoir un pied-à-terre tout prêt à les accueillir à Londres. L'immeuble contient une salle de gym, une piscine, un sauna, des salles de réunion, un cinéma et une gigantesque terrasse commune au 10e étage, tout cela réservé aux résidents. Pendant quelques temps, après le vote en faveur du Brexit, ce genre de bien immobilier a perdu un peu de son éclat, avoue Nicolas Finn, le directeur exécutif de Garrington Property.
Pendant cette période creuse, nous avons eu moins de propriétés sur le marché. Personne ne veut vendre en période d'incertitude. Certains ont même retiré leurs biens du marché. Les transactions se sont ralenties avec une baisse sans doute de 25 à 30%.
En effet, les prix ont été affectés, ou plus exactement, ils n'ont pas beaucoup baissé dans les vitrines des agences de luxe, mais c'est l'attitude des vendeurs qui a changé surtout, selon Nick Dawson.
Dans cet immeuble, mais c'est aussi le cas dans le même genre d'immeubles neufs partout dans Londres, certains promoteurs sont ouverts à la négociation et offrent des réductions très intéressantes qui peuvent aller jusqu'à 15 ou 20%. Cet appartement est à vendre 2 700 000 livres. En réalité, il partira sûrement pour 2 300 000 ou 2 400 000. Mais sa valeur sur plan en 2012, quand la construction a commencé, était de 1,5 million ou 1 800 000. Donc le promoteur a déjà fait un profit raisonnable. Ce que les promoteurs veulent, en fait, c'est conserver un rythme de vente soutenu. Ce sont les périodes creuses qu'ils n'aiment pas. Alors, ils préfèrent faire un geste.
De fait, donc, les prix ont baissé à Londres, et pas qu'un peu. C'est pour redonner du souffle à un marché qui reprend du poil de la bête, selon les deux spécialistes, car au final, l'immobilier de luxe a aussi profité du Brexit.
Depuis le vote, le taux de conversion est très intéressant pour les acheteurs originaires de la zone euro, mais aussi au-delà de l'Europe. Les prix ont baissé de 10 à 15% et ça attire de nouveaux acheteurs.
Et surtout des investisseurs. Ce sont d'eux dont le maire de Londres, Sadiq Khan, se méfie. La semaine dernière, il a lancé une étude sur l'impact que ces acheteurs ont sur les prix de l'immobilier à Londres. Ils acquièrent un bien, ne l'habitent pas et ne le louent pas pendant plusieurs années avant de le revendre en faisant une grande plus-value. Le maire estime que cela fait partie des raisons pour lesquelles le prix moyen d'un appartement dans la capitale est de 410 000 livres, soit 480 000 euros, selon une étude de Generation Rent, bien loin du salaire moyen de 27 000 livres par an, soit 31 000 euros. D'après les agents immobiliers spécialisés dans le luxe, le Brexit a permis de remettre un peu les pendules à l'heure dans ce marché, mais ça ne fonctionnera pas tout le temps, et d'ailleurs ça n'a pas vraiment fonctionné pour le marché classique. Selon Ben Miller, directeur de l'agence Living in London dans le sud de la capitale, le vote n'a pas eu beaucoup d'impact.
On avait ce deux pièces qu'on a évalué avant le Brexit à 425 000 livres. Il vient d'être mis en ligne et nous avons des offres 5% en dessous, autour de 400 000. Je pense qu'on arrivera à le vendre juste au-dessus, donc au prix auquel nous nous serions attendus sans Brexit.
Le marché de l'immobilier a bénéficié de la rapidité de la Banque d'Angleterre. Quelques jours après le vote du Brexit, elle a baissé les taux d'intérêt, rendant les prêts plus attractifs. Il y a eu un ralentissement, cependant, il a commencé un peu avant le vote et il a duré un mois après, explique Ben. Et pendant ce temps-là, les vendeurs ont préféré attendre. Contrairement au marché de luxe, ils n'ont peut-être pas un gros portefeuille de propriétés pour lequel l'important est plus le mouvement que la plus-value. Mais malgré tout, certains acheteurs ont cru que cette décision allait être une aubaine, raconte l'agent immobilier.
On a eu des offres un peu osées. On entendait dans les médias que le marché allait s'effondrer de 18%. Donc, on a eu des offres 18 à 20% en dessous du prix demandé. Mais aucun de nos vendeurs n'a accepté. Il se passera au moins 2 ans avant la sortie effective de l'Union européenne. On va vivre des montagnes russes et on en parlera dans la presse. Or, le marché immobilier britannique est très sensible aux médias et aux taux de confiance. Les bonnes et les mauvaises nouvelles auront une influence.
Selon une étude de la banque suisse UBS parue la semaine dernière, Londres est la seconde ville au monde où les biens immobiliers sont le plus surévalués. Le marché a donc retrouvé son énergie pré-Brexit pour le meilleur comme pour le pire. This is my song of Europe.
This way of life I love to see. On peut dire, sans exagérer, que ces derniers mois ont été très agités pour les fonctionnaires européens. Après la tempête Brexit, ils ont dû essuyer d'autres épreuves. Le scandale de l'ancien président Barroso, engagé par Goldman Sachs, ou les comptes à l'étranger de l'ancienne commissaire Nelly Kroes. Bref, les fonctionnaires n'ont pas le moral. Une pétition réclamant plus de déontologie a déjà recueilli 150 000 signatures. Pour retrouver un peu de cohésion, la commission les encourage à pratiquer du sport en équipe, une thérapie de groupe qu'a suivi pour nous à Bruxelles l'ex-Milota.
Voilà, je cite le numéro, vous me dites votre nom s'il vous plaît, numéro 1.
C'est dans un écrin de verdure à la campagne, à une vingtaine de minutes de Bruxelles, que les fonctionnaires européens se retrouvent. Oubliez les cravates et costumes en ce samedi, nous sommes à Overice, sur un terrain de football. Les employés de la Commission européenne ont enfilé shorts et maillots bleus avec des étoiles jaunes comme le drapeau européen. Ils sont 15 de l'équipe des vétérans à s'échauffer. Face à eux, en Bordeaux, l'équipe de la compagnie belge d'électricité. Au début, pour Barna Kovac, qui travaille au service des technologies de l'information, c'était plus un loisir, mais la rencontre hebdomadaire est vite devenue un challenge.
D'abord, quand j'ai constaté qu'il existe une équipe de foot, d'abord j'ai pensé, ok, on va aller avec les collègues, on va jouer, on va boire un coup et c'est tout. Alors, j'étais bien étonné quand j'ai vu un championnat interbancaire vraiment sérieux, avec les arbitres, avec des maillots uniformes. Alors, c'était intéressant, mais je l'aime bien. C'est pas important d'où tu viens, mais c'est vraiment important ce que tu fais ici dans le jeu.
Effectivement, dans les vestiaires et sur le terrain, on s'engueule. À un moment du match, des joueurs sont même prêts à en venir aux mains. C'est une rencontre sérieuse. La Commission européenne propose de nombreux sports à ses employés, de la danse au badminton en passant par la natation et le football. Elle compte pas moins de 6 équipes de foot. Ce matin, sur le bord du terrain, on parle aussi travail. Les récents scandales Barroso, l'ancien président de l'institution qui a accepté un poste à la banque Goldman Sachs, et les révélations sur l'ancienne commissaire Nelly Kroes qui possédait une entreprise aux Bahamas pendant qu'elle exerçait ses fonctions, tout cela a terni l'image de la Commission européenne. Les fonctionnaires doivent souvent se justifier auprès de leurs familles, leurs amis qui montrent du doigt l'institution à laquelle ils croient. Le sport peut être un moyen de resserrer les liens. La star de l'équipe, c'est le buteur Gaetano Pellino, employé à la Direction Générale Fiscalité et Union Douanière.
La vue des gens sur nous n'est pas toujours très bonne de leur opinion, mais entre nous, ça se passe très bien. Et Et voilà, quoi, le moral est toujours là pour nous.
Et parfois, le bureau se retrouve sur le terrain. Le football permet aussi de nouer des contacts, voire de régler certains dossiers. Comme le raconte Dario Di Benedetto, il travaille à la Direction Générale de l'Agriculture, c'est le capitaine de l'équipe.
Il arrive que par accident, on parle de travail, ah mais nous on s'occupe de ce dossier, et hop, on se passe la main. J'ai un exemple comme ça, donc on était en réunion de secteur, et mon chef italien à l'époque, il avait toujours l'habitude que quand je devais prendre la parole, il dit, et toi Dario, à part le football, qu'est-ce que tu as fait? Mais entre-temps, il avait parlé d'écouter, on a besoin de ce dossier, mais j'arrive pas à l'avoir, d'ici et là, dit, et moi je me suis levé. Ben, à part le football, il dit, tiens, en fait, je t'ai mis le dossier. Il me regarde. Il dit, comment tu as fait? Et j'ai répondu, avec le football.
Côte à côte, Italiens, Belges, Grecs, Hongrois, Autrichiens, Espagnols, Portugais. Pour les entraîner, Alain Moreau, fini les grades, sur le terrain, ils sont tous égaux. Un commissaire à l'élargissement a même fait partie de l'équipe une année. Le coach livre une anecdote à son sujet.
Il y a un commissaire qui a joué avec nous, le jour où il était mauvais. Moi, qui est un des plus petits grades de la commission, je lui disais, je l'ai engueulé, oui, et il a accepté, c'est ça qui est bien. Et il a dit, ouais Alain, tu as raison, j'ai pas respecté les consignes et à cause de ça, il y a eu ceci et cela. Il n'y a aucun problème. Et ici, quand on est en short, les grades n'existent plus.
Victoire pour l'équipe européenne, score final 3-1 avec son lot de blessés.
Maintenant, je suis un peu blessé sur les genoux, alors on verra si je joue ou pas, parce qu'il ne faut pas risquer.
Il faut pouvoir retourner au travail lundi aussi.
Ah oui, bien sûr.
Après le match, les fonctionnaires européens se retrouvent pour boire un verre, à l'occasion aussi de distribuer quelques cartons jaunes à ceux qui ont entaché l'image de leur institution.
Lesson of English.
500 millions de citoyens européens, 24 langues de travail au sein de l'Union européenne. Pas étonnant que l'unité de cet immense groupe linguistique soit souvent mise à mal. La dernière étude d'Eurostat sur l'enseignement des langues étrangères va-t-elle nous rassurer? Pour en parler, nous retrouvons Daniel Vigneron du site myeurope.info. Bonjour Daniel.
Bonjour Frédéric.
Pour commencer, l'enseignement des langues pourrait-il permettre de resserrer les liens entre les pays européens?
On risque de vous décevoir, Frédéric, la réponse est non. D'une part, l'enseignement des langues en Europe ne se distingue pas particulièrement de l'enseignement pratiqué sur les autres continents. Comme partout, la position de l'anglais est totalement dominante, puisque hors Royaume-Uni, plus de 97% des élèves de l'Union étudient la langue de Shakespeare. L'anglais, pourtant partout enseigné, n'est pas si dominant que cela, avec environ 150 millions de locuteurs en Europe. L'allemand est pratiqué par 125 millions de personnes, le français par 90 millions, l'italien par 67 et l'espagnol par 57. Cette diversité linguistique n'est aucunement prise en compte à l'école, puisque l'allemand est 4 fois moins enseigné que l'anglais et l'italien 12 fois moins que l'espagnol. Bref, l'utilitarisme économique international détermine l'apprentissage des langues en Europe et nullement la volonté de favoriser la connaissance et le rapprochement des cultures au sein de l'Union.
Faut-il dire que rien n'a changé à l'école concernant l'apprentissage des langues ?
Ce qui a changé, c'est le fait que les élèves apprennent de plus en plus tôt une langue étrangère. En 2013, 82% des élèves du primaire apprenaient qu'une langue, et même deux langues pour 5% d'entre eux. Naturellement, l'anglais est là aussi très dominant, puisqu'il est étudié par 77% des élèves. Mais il faut noter que le français est quand même enseigné à 12% des élèves du primaire, du fait de son apprentissage obligatoire en Belgique néerlandophone, et qu'il domine dans l'enseignement primaire des langues au Royaume-Uni.
Et globalement, quelle est la place du français dans les écoles européennes, Daniel ?
À tous les niveaux d'éducation en langue, le français occupe la deuxième place, mais très très loin, bien sûr, derrière l'anglais. En ce qui concerne le premier cycle de l'enseignement secondaire, le collège en France, niveau où l'apprentissage des langues étrangères est le plus généralisé, le français était enseigné en 2014 à 6 millions d'élèves européens, soit 33,7% des élèves de ce cycle, à l'exclusion du Royaume-Uni.
En somme, le français serait la deuxième langue par excellence.
C'est la deuxième langue la plus fréquente. Elle fait un tabac à Chypre et en Roumanie, où plus de 80% des élèves du premier cycle l'étudient. Mais également en Italie et au Portugal, respectivement 67 et 64% des élèves. Signalons aussi que le français est logiquement la première langue enseignée au Royaume-Uni et en Irlande, ainsi qu'en Belgique néerlandophone, où elle est obligatoire du fait du bilinguisme du pays.
Et peut-on dire que le panorama linguistique est le même au niveau du deuxième cycle, ce qui correspond au lycée en France ?
Non, c'est un peu différent à ce niveau. La prédominance de l'anglais est toujours aussi écrasante, 94%, mais l'enseignement du français est nettement moins fréquent que dans le premier cycle, 23% contre 33%, tandis que celui de l'allemand recule moins, 19% contre 23%. Selon les experts, cela dénote le fait que la langue de Molière est moins utilitaire que celle de Goethe, puisque l'on choisit moins souvent d'en approfondir l'étude. De fait, parler couramment allemand est une exigence dans beaucoup de pays d'Europe centrale, très tournée commercialement vers l'Allemagne. Cela dit, l'apprentissage à un niveau supérieur du français comme de l'allemand a reculé de 3 ou 4 points depuis 2009, principalement au profit de l'espagnol, mais aussi de langues extra-européennes comme le chinois ou l'arabe.
Et finalement, peut-on dire que les tendances linguistiques sont assez similaires dans tous les pays ?
Vous avez raison, mais il y a une exception, le Royaume-Uni. Partout ailleurs, l'enseignement des langues vivantes étrangères est complètement généralisé, puisqu'il concerne 82% des élèves du primaire et 98% des élèves du premier cycle du secondaire. Outre-Manche, au contraire, cet enseignement n'a cessé de se réduire depuis 20 ans. Il concernait en 1995 74% des élèves, mais cette proportion est tombée à 48%, c'est-à-dire moins d'un élève sur deux. La prévalence mondiale de plus en plus marquée de l'anglais est évidemment pour beaucoup dans cet effondrement. Les efforts récents du gouvernement britannique pour redresser la barre sont d'une efficacité relative, puisque les directives du ministère ne s'imposent pas aux free schools qui se sont beaucoup développées. En outre, les autorités mettent désormais l'accent sur l'apprentissage des nouvelles langues porteuses comme l'arabe, le chinois, le bengali ou le turc. Cela est inquiétant pour l'apprentissage du français qui n'est plus enseigné qu'à 25% des jeunes britanniques contre 47% il y a 20 ans.
Merci beaucoup Daniel Vigneron, à la semaine prochaine.
À bientôt Frédéric.
You can get any food you want, which is crazy. You could eat the most delicious stuff. You could eat beluga caviar, you could eat, you know, the nicest T-bone steak, you could eat whatever.
L'Estonie, le plus septentrional des trois pays baltes, n'a pas vraiment une réputation mondiale de fin gourmet. Pourtant, à Tallinn, le jeune chef Tony Si veut convaincre ses compatriotes des vertus du bien manger. Dans son restaurant Taliouk, Cécile Debarge a testé sa cuisine pour nous.
Tout commence avec une tranche de pain noir aux graines d'anis et un peu de sindoux parfaitement assaisonné à tartiner. Parfaite entrée en matière pour Tony Sigur, le jeune chef du Tuliak, l'un des restaurants de Tallinn qui donne ses lettres de noblesse à la nouvelle cuisine estonienne. Encore faut-il savoir à quoi ressemble la cuisine estonienne tout court et ses ingrédients de base.
C'est le porc, sans hésiter. On cuisine du porc à toutes les sauces. Presque tout le monde en mange, comme le pain noir, et puis aussi tous les produits laitiers, la crème, le lait, le yaourt.
Avec ces produits simples que l'on retrouve dans tous les plats les plus classiques du pays, il sert des assiettes surprenantes où le dressage d'une entrée se fait sur de gros galets gris, par exemple.
Pour présenter les plats, on utilise tout un tas de choses qu'on trouve dans les bois, dans la forêt. On utilise des pierres, tout ce qu'on trouve ici. On a envie de montrer où on vit.
Et là où vit cette jeune génération de chefs estoniens, c'est dans un pays où la gastronomie a souvent été considérée comme un luxe inutile, voire un raffinement hors de propos.
Parfois j'ai l'impression qu'il n'y a pas de problème, par exemple pour acheter un rouge à lèvres à 100 euros. Par contre, 30 euros pour un repas, les gens disent non.
Le Tuliak a ouvert ses portes il y a un an dans un ancien restaurant aux allures de blocos de béton dans le plus pur style soviétique. Dans les cuisines de l'époque, l'important était de remplir les estomacs, pas de satisfaire les papilles. Une attitude qui persiste parfois et qui est un véritable défi pour les jeunes chefs estoniens.
Je pense que c'est très important qu'on ne mange pas juste pour se nourrir, mais aussi pour partager un moment avec les autres, se détendre après une dure journée de travail.
Pour les jeunes chefs, rééduquer les Estoniens en goût passe aussi par la découverte des produits locaux. Plus question d'importer à tour de bras la gastronomie des autres, mais plutôt de valoriser tout ce qui se trouve sur le sol estonien, à commencer par les produits de la forêt, par exemple, qui sont souvent ramassés à l'automne lors des grandes battues de chasse aux baies et aux champignons.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, rubrique émission Accent d'Europe. À demain.